les chars de l'armée rouge. Une obsession qui dura un demi-siècle, le temps de la guerre froide. Une obsession si prenante qu'en 1981, des journalistes et des hommes politiques prétendument sérieux ont pu annoncer qu'avec la victoire de François Mitterrand et de l'Union de la Gauche, les chars soviétiques allaient bientôt déferler sur les Champs-Élysées. Mais malheureusement, il s'est trouvé des pays où ces chars si redoutés sont entrés. Avant même l'Afghanistan et la répression du printemps de Prague. En 1953, par exemple, on les a vus à Berlin massacrer les ouvriers révoltés. Mais les images les plus spectaculaires demeurent celles des chars entrant dans Budapest. Novembre 1956. Pendant 150 heures, les Hongrois ont secoué le joug soviétique et se croient libres. Moscou leur a même fait croire que les chars de l'armée rouge ont reflué vers la frontière. Mais c'est un mensonge. Et bientôt, la révolution aura vécu. Pourquoi revenir sur ces événements lointains, des événements qui, rappelons-le, vont déclencher un véritable séisme dans l'univers communiste? Parce qu'on ne sait peut-être pas toute la vérité sur leur déroulement et les véritables enjeux de cette tragédie où les services secrets de l'Est et de l'Ouest ont joué un rôle essentiel. C'est en tout cas la conviction de M. X qui a eu connaissance d'informations récemment déclassifiées.
On a du mal aujourd'hui à imaginer, enfin je pense surtout à vos jeunes auditeurs, ce qu'était l'Europe de l'après-guerre, une Europe coupée en deux.
Oui, le rideau de fer.
Oui, l'expression, je crois, a été inventée par Winston Churchill. Une Europe qui, il ne faut pas l'oublier, vit sous la menace nucléaire et la perspective d'une troisième guerre mondiale. Dans ces années-là, un homme comme le général de Gaulle y croit absolument. Il y aura forcément la guerre.
Oui.
On vit alors dans un monde en noir et blanc où les affrontements idéologiques sont d'une extrême violence.
Bon, d'accord, je vous ai bien compris, vous me direz le général. Mmh. Mais par où voulez-vous commencer, là ?
1953.
L'année de la mort de Staline.
C'est là où je voulais en venir, oui. Mmh. C'est l'année où, pour reprendre le mot d'un auteur soviétique, commence le dégel.
C'est-à-dire la déstalinisation,
oui,
essentiellement.
Oui. Et curieusement, c'est Beria, l'homme de la police et des services secrets, qui commence en ouvrant le goulag, par exemple, ou bien en amorçant la réconciliation avec le maréchal Tito.
Oui, puis ensuite, il y aura Khrouchtchev. Hein.
Une fois Beria éliminé, oui. Pour l'opinion occidentale, Khrouchtchev, c'est un bon gros, un paysan, un gentil, avec lequel on devrait pouvoir s'entendre. Tout cela étant parfaitement faux, bien sûr. Mais il n'empêche qu'au Kremlin, quelque chose est en train de changer. On en a la preuve avec le coup de tonnerre du 20e congrès en 1956.
Le congrès du Parti communiste de l'Union soviétique.
C'est ça. Khrouchtchev y dénonce les crimes de Staline et le culte de la personnalité. Pour les communistes du monde entier, c'est un véritable choc.
Bah, et c'est la chute de l'idole Staline.
Oui. Et le traumatisme est si important que certains partis communistes, le nôtre en particulier, dissimulent le rapport Khrouchtchev et nient même simplement à son existence. Ça leur est d'autant plus aisé qu'en principe, ce rapport devait demeurer secret.
Oui, mais il a été rendu public.
Exactement. C'est une histoire très curieuse sur laquelle je me propose d'ailleurs de revenir un jour.
Ah oui, j'ai bien noté.
C'est bien sûr en Europe de l'Est, dans les pays frères, comme on disait alors, que les révélations de Khrouchtchev produisent le plus grand effet. Parce que les dirigeants de ces pays sont presque tous des enfants de Staline, si vous me permettez cette expression.
Ouais, leur pouvoir va commencer à vaciller.
Ben, naturellement. Et ça commence en Pologne. Un mois après le 20e congrès, le leader communiste Gomulka sort de prison.
Quand avait-il été arrêté, lui ?
À la fin des années 40.
Oui, c'est-à-dire au moment des grandes purges. Hein.
Oui, Staline s'était alors débarrassé de bon nombre de dirigeants historiques des pays de l'Est. Des hommes qui n'avaient pas les chines assez souples, qui ont été remplacés par des bureaucrates à sa botte. On va en parler de ça, si vous voulez bien. Mm-hmm. Revenons d'abord en Pologne. Gomulka est donc libéré. C'est un des rares leaders communistes qui jouit d'une incontestable popularité.
Attendez quand même, enfin... Plus précisément, on a parlé de purge, mais pourquoi avait-il été emprisonné sous quel
prétexte ? Il défendait l'idée d'un socialisme à la polonaise tenant compte des spécificités de son pays.
Et donc éloigné peu ou prou du modèle soviétique.
Oui, c'était insupportable pour Staline qui voulait que pas une tête ne dépasse. Et puis, il faut bien le dire, le maître du Kremlin n'avait pas une grande affection pour les Polonais. Souvenez-vous du massacre de Katyn.
Et du dépeçage de la Pologne aussi en 1939.
Et après la victoire, Staline fera reculer la frontière de la Pologne vers l'ouest sur plus de 200 kilomètres. Enfin bon, passons. La Pologne, donc. En juin, des émeutes éclatent à Poznan.
Gomulka là, n'est pas encore revenu au pouvoir. Hein.
Elle n'a même pas été réintégrée dans le parti.
Mmh. Et quelle est l'origine de ces émeutes là ?
Les manifestants réclament des augmentations de salaire. Mais très vite, ça dégénère. Il est clair que c'est le régime communiste qui est visé. Il n'est pas exclu que ces émeutes aient reçu des appuis extérieurs.
De l'Ouest, vous voulez dire ?
Bien entendu. Les Américains, car il s'agit essentiellement d'eux, n'ont jamais renoncé à fomenter des troubles de l'autre côté du rayon de fer.
C'était une bonne guerre, non ?
Oui, on peut voir les choses comme ça. Donc, après avoir renoncé à constituer des maquis anticommunistes, ils ont choisi la propagande.
Par quels moyens ?
Deux, essentiellement. La radio et les tracts. Des tracts qui étaient parachutés par des ballons. Mais parfois, ça a été très efficace. Je me souviens notamment d'un cas, en 54, je crois, un officier de la police secrète polonaise fait défection et passe à l'ouest. Pris en charge par la CIA, il donne de nombreuses informations utiles. Il révèle, par exemple, plusieurs cas de corruption.
Au sein du gouvernement polonais ?
Oui, et aussi dans les organes de sécurité. Ses propos sont aussitôt enregistrés et diffusés sur Radio Free Europe, une radio qui émet vers les pays d'Europe de l'Est.
Une radio qui n'est pas sans lien avec la CIA.
C'est évident. Mais on y reviendra à propos de la Hongrie, car Radio Free Europe a été largement impliquée dans les événements de Budapest. Mais les Américains ne se contentent pas de ces émissions de radio. Ils parachutent aussi des milliers de tracts au-dessus de la Pologne.
En reprenant les propos de ce transfuge, j'imagine.
Oui, oui, ça provoque un tel scandale que le gouvernement polonais se résout à limoger plusieurs responsables compromis. Alors, revenons en 1956. Mm-hmm. Les émeutes sont réprimées par la police et l'armée. Il y a une cinquantaine de morts, mais il est évident que les autorités polonaises ont été déstabilisées.
Et à Moscou, on doit être inquiet ?
Ben, il ne peut pas en être autrement. Et Khrouchtchev et les membres du Présidium les plus réformateurs pensent à Gomulka. Premier acte, il redevient membre du PC. Deuxième acte, on va lui permettre de revenir au pouvoir.
C'est Khrouchtchev ?
Bien sûr. Et ça va se passer d'une façon très étrange. Pour tout dire assez machiavélique.
Expliquez-moi ça.
Apparemment, on a l'impression d'assister à un coup d'État. Gomulka s'empare du pouvoir avec le soutien de l'armée et d'une fraction notable du Parti communiste.
Et moins Staline.
Forcément.
Et ça se fait sans aucune difficulté.
L'opération elle-même ? Oui. Toutefois, c'est la suite qui est intéressante. Gomulka devient donc le champion d'un communiste plus libéral, plus novateur. Mais il doit faire face à ses propres ultras.
C'est-à-dire ?
Des gens, des militaires en particulier, qui veulent sortir du pacte de Varsovie.
Là, bon, rappelons-le, c'est le pacte militaire qui lie les démocraties populaires.
Oui, l'équivalent de l'OTAN pour les pays occidentaux. Mm-hmm.
Et c'est naturellement inacceptable pour les soviétiques.
Hein. Alors Moscou va en venir en aide à Gomulka.
Comment ?
Les chars, M. Pénon. Des chars stationnés en Pologne qui se rapprochent dangereusement de la capitale polonaise. Aussitôt, Gomulka demande solennellement au Kremlin de retirer ses troupes.
Mais je comprends pas. Là. Vous m'avez dit que Moscou voulait aider Gomulka.
C'est entendu. En fait, cette histoire de chars, c'est de la gesticulation. Khrouchtchev veut faire peur à tous ceux qui seraient tentés de rompre avec l'URSS.
En parfait accord avec Gomulka ?
C'est la vérité. De cette façon, le leader polonais peut repousser les exigences de ses partisans les plus extrémistes sans apparaître comme un valet du Kremlin.
Donc si je vous entends bien, la connivence de Gomulka avec Moscou était totale.
Oui, mais il fallait sauvegarder les apparences et conforter son pouvoir. Et la suite de l'histoire polonaise montrera bien que Gomulka n'était pas tout à fait le communiste novateur qu'il affirmait être. Bien au contraire, il s'attachera à revenir sur les principales concessions qu'il avait faites pour arriver au pouvoir.
Mais si on envisage l'affaire polonaise d'une façon très cynique, Khrouchtchev et Gomulka ont bien joué, non ?
Tout à fait. Sauf que cette histoire a donné des idées à certains.
Et en droit ?
Oui. Et là, ça se passera beaucoup, beaucoup plus mal.
Revenons un instant sur la crise polonaise de 1956 et ses suites. Voici ce que je lis dans le livre de Georges-Henri Soutou, La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990, un livre paru chez Fayard en 2001. Gomulka, à la suite de la crise, annonça un programme de libéralisation, s'entendit avec l'épiscopat, utilisa en novembre la tragédie hongroise pour démontrer aux Polonais qu'il convenait d'être prudent. Il conclut le 18 novembre un accord avec Moscou, confirmant l'alliance polono-soviétique, organisa des élections en janvier 1957 pour lesquelles il bénéficia de l'appui de l'Église. À partir de là, et le pire étant passé, il s'ingénia à resserrer les boulons et à reprendre une à une maintes de ses concessions de 1956-1957 jusqu'à sa chute en 1970 provoquée par les émeutes de Gdansk. Les soviétiques avaient préservé ce qui était à leurs yeux l'essentiel, le maintien de la Pologne dans le pacte de Varsovie et le rôle dirigeant du parti dans l'État et la société selon la phraséologie consacrée. Les concessions, les petites réformes, l'accord avec l'Église, tout cela était admissible. Cela renforçait d'ailleurs le camp khrouchtchevien contre les staliniens dans la ligne du 20e congrès, tant que les liens stratégiques avec Moscou et la dictature du parti étaient maintenus. C'est parce que, dans le cas de la Hongrie, ces deux points parurent menacés que les choses s'y déroulèrent de façon beaucoup plus dramatique. Avant peut-être d'en venir aux événements de 56 en Hongrie, quelques mots peut-être sur l'évolution de ce pays après la Deuxième Guerre mondiale.
Volontiers. C'est en 1948 que la Hongrie est devenue une démocratie populaire. Il faut noter que les premières élections, enfin juste après la guerre, avaient montré que les communistes étaient très minoritaires dans le pays. Mais il y avait l'armée rouge, toujours présente. L'armée rouge qui avait libéré le pays, et puis surtout les communistes, avec l'aide de conseillers soviétiques, contrôlaient la police et les services de sécurité. Un point essentiel, vous l'imaginez bien.
Puis en outre, les accords de Yalta avaient placé la Hongrie dans l'orbite soviétique.
C'est juste, le Kremlin pouvait donc y agir comme il voulait. Après avoir institué le parti unique, communiste, bien entendu, Moscou confie la réalité du pouvoir à Matthias Rákosi. C'est lui, patron du parti communiste qui décime les opposants et gouverne le pays. Mais un autre homme lui fait de l'ombre.
Un autre communiste?
Bien entendu. László Rojk est ministre de l'Intérieur et c'est de loin le dirigeant communiste hongrois le plus populaire.
Pour quelle raison?
D'abord, c'est un homme très séduisant. Ensuite, il a un passé prestigieux. Ancien des Brigades internationales, il s'est réfugié en France où il a été interné dans un camp de réfugiés. Mais il s'en est échappé et a réussi à passer en Hongrie, où il est devenu secrétaire du comité central clandestin et l'un des dirigeants éminents de la résistance. C'est très important.
Pourquoi?
Parce que les autres principaux dirigeants communistes ont, eux, passé la guerre à Moscou.
Comme beaucoup d'autres chefs communistes européens.
Hein. Oui, Torres en particulier. Oui, c'était sur ordre de Staline qui tenait à les avoir sous la main. Arrêté par la Gestapo, Rick a été ensuite envoyé dans un camp de concentration avant de revenir dans son pays après la défaite du Troisième Reich. Tout ça, ça faisait beaucoup de raisons pour se faire haïr de Staline. Staline, qui, ne l'oublions pas, s'est débarrassé de presque tous les anciens des brigades internationales.
Et Staline, qui ne devait pas apprécier non plus l'esprit d'indépendance de Rojk, non ?
Il n'aimait pas les héros, des gens sur lesquels il n'avait pas prise. Enfin bref, à Moscou, on va très vite décider de se débarrasser de Rojk.
Sous quel prétexte ?
Rojk aurait pu quitter son camp de réfugiés en France grâce à l'amitié qu'il avait tissée avec un Américain, un certain Field.
Mais Noël Field ?
Lui-même.
Ça, hein. Ouais, mais vous m'avez déjà parlé de lui.
C'est exact. Alors, je vous rappelle seulement que Field, sympathisant communiste, a été manipulé par Alain Delos, chef de l'OSS en Suisse et futur patron de la CIA. Et grâce à Field, soupçonné par les soviétiques d'être un agent américain, il a pu faire tomber un certain nombre de dirigeants d'Europe de l'Est.
Victime de la paranoïa de Staline, qui voyait des complots partout.
Ouais. Et donc, du piège tendu par Delos, c'est la terrible explication de la purge 1949-1951. Tous ceux qui avaient connu Field ou qui avaient simplement vécu à l'Ouest étaient des suspects.
Et comme par hasard, c'était tous de vieux bolcheviques. Hein.
Oui, mais enfin, passons. Rojk est donc l'un des premiers à tomber. Il est arrêté, torturé, sa famille est menacée. Rojk est accusé d'avoir fomenté un complot en liaison avec les services secrets occidentaux et Tito.
Ouais, ça, la pire accusation, on s'attend à.
Oui. Et Rojk, à qui on a promis la vie sauve, finit par signer des aveux. Non pas tant pour sauver sa peau que par patriotisme de parti, comme on disait alors.
C'est-à-dire pour servir son parti.
Et pour prouver que Tito est vraiment un agent de l'impérialisme. Bref, en 1949, Rojk est jugé, condamné à mort, malgré l'absence de preuves, et exécuté. Et avec lui, quelques-uns de ses complices présumés sont aussi éliminés.
C'est donc Rákosi, c'est comme ça qu'on prononce, c'est bien ça, qui va diriger la Hongrie d'une main de fer.
Oui, jusqu'à la mort de Staline. Rákosi liquide ses éventuels concurrents. János Kádár, par exemple, dont nous allons beaucoup reparler, lui aussi est arrêté, torturé. Mais la disparition de Staline intervient à point nommé. Kádár n'est pas exécuté, il sera même réhabilité un an plus tard.
Ça signifie donc que la mort de Staline produit très vite des effets.
Et particulièrement en Hongrie, c'est certain. À Moscou, on décide très vite qu'il faut éloigner Rákosi, qui était l'exécuteur des purges staliniennes. Alors on lui laisse son poste de secrétaire général du parti, mais on nomme un nouveau premier ministre, Imre Nagy, un communiste patriote plutôt modéré et pas très connu.
Est-ce que c'est pas hypocrite? On sait bien que dans ce système, c'est le parti qui décide de tout.
Mais vous avez raison, mais avec la mort de Staline, quelque chose a vraiment changé. Provisoirement, en tout cas. Et on en a la preuve assez rapidement. À peine nommé, Nagy soulève le couvercle de la marmite. Et à Moscou, on aura maintenant bien du mal à le refermer.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Nagy, qui était un homme d'apparence paisible, dresse un bilan catastrophique de la situation politique et économique de son pays. Bref, selon lui, depuis que la Hongrie est devenue une démocratie populaire, tout va à volo.
Bah ça doit provoquer un véritable choc. Hein.
En effet, incontestablement, un vent nouveau souffle sur la Hongrie. 15 ans avant le Tchèque Dubček, Nagy parle de communisme à visage humain.
Ah, c'est donc lui qui a inventé l'expression?
Oui.
Mais avant d'aller plus loin, là, on peut quand même s'interroger. Les nouveaux dirigeants de l'URSS n'ont-ils pas pris un risque énorme en permettant à cet homme-là, Nagy, d'accéder au pouvoir à Budapest?
Il est vrai qu'on peut se poser la question. Je crois avoir la réponse. Nodge, qui avait longtemps vécu à Moscou, avait sans doute des liens avec le KGB.
Ah, donc les soviétiques pensaient pouvoir le contrôler?
Je le pense. Mmh. Sinon, on ne serait pas allé chercher ce quasi-inconnu. En outre, pour Moscou, Nodge avait un avantage. C'était un homme seul.
Ça, explique-moi ça, là.
Il ne disposait pas de réseau ou d'appui solide dans l'appareil du parti. Par conséquent, on pouvait, le cas échéant, se débarrasser facilement de lui.
Mmh. Mais si je vous entends bien, la marionnette va très vite échapper à ses maîtres.
Oui, Nodge, qui sait combien il est fragile, va s'adresser directement aux Hongrois.
Il joue l'opinion publique contre le parti.
Oui, et c'est tout à fait nouveau dans un pays communiste.
C'est risqué, hein?
Bien entendu. En tout cas, je vous l'ai dit, le couvercle s'est soulevé et ce sont les intellectuels les premiers qui commencent à bouger. Les écrivains, les journalistes, les étudiants mettent en cause la politique passée du parti et exigent de s'exprimer désormais librement. Et là encore, c'est une véritable révolution. D'autant que les portes des prisons se sont ouvertes et que les rescapés des purges staliniennes réclament une réparation.
Alors on peut se demander combien de temps les dirigeants soviétiques vont supporter ça, d'autant que la contagion peut gagner d'autres pays d'Europe de l'Est.
C'est incontestable. Et Khrouchtchev, qui s'est débarrassé de ses rivaux et règne en maître au Kremlin, va siffler la fin de la partie. Au printemps 55, avec l'appui de Moscou, le chef du parti reprend les choses en main et Nodge est destitué. Mais cela aussi est très nouveau. Il refuse de faire son autocritique. Conséquence, il est immédiatement viré du parti et il va désormais vivre sous la surveillance de la police secrète.
Ouais, ça aurait pu être pire. Hein.
Oui, mais quelque chose a été semé qui va inévitablement germer un jour. C'est d'autant plus vrai que tous ces intellectuels qui ont commencé à murmurer ne sont pas décidés à se taire. Ça bouge même au sein des jeunesses communistes où se crée un cercle contestataire, le cercle Petefi, du nom d'un poète nationaliste du 19e siècle, héros de la révolution de 1848.
Et Rakoschi la laisse faire?
Non, il réprime, il censure, il purge. Ce qui ne suffit toutefois pas à museler la contestation. Quant à Nodge, il apparaît maintenant comme le recours. Et on en est là quand éclate le coup de tonnerre du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique.
Et le rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline.
Ça donne forcément des idées aux contestataires hongrois qui réclament à corps et à cri la déstalinisation dans leur propre pays. Et très symboliquement, ils commencent par réclamer la réhabilitation de László Rojk.
C'est donc la mise en cause directe de Rakoschi, hein, puisque c'est lui qui a orchestré son procès.
Oui, oui, et à partir de là, il est évident qu'une puissante machine s'est mise en marche et qu'il sera bien difficile de l'arrêter.
On a du mal à imaginer l'importance de la fièvre qui s'est emparée des milieux intellectuels hongrois en 1955 et 56. Le grand spécialiste des pays de l'Est, François Feiteux, a pu même parler de république des écrivains. Quant à Jacques Zemlin, auteur de « La liberté au bout des ondes », un ouvrage paru en 1997 chez Belfond, voici ce qu'il écrit. Ces foyers protestataires irriguent la société de deux manières, soit à travers des écrits, œuvres littéraires ou articles dans la presse et les revues, soit à travers des débats au sein de clubs de discussion, comme dans la France pré-révolutionnaire du XVIIIe siècle. Dès l'automne 55, la Hongrie connaît une révolte de l'esprit. Le 18 octobre, un mémorandum des écrivains et artistes proteste contre les immixtions du parti dans la vie littéraire. L'hebdomadaire Gazette littéraire devient bientôt la bannière de la contestation. Les plus grands écrivains de l'époque s'expriment dans ses colonnes et leurs articles sont attendus avec impatience par des dizaines de milliers de lecteurs. Nous attaquâmes le régime Rakoschi et ses actes, dit Durdieu Pelletsi Horvath. Notre hebdomadaire fut attaqué en retour par le quotidien officiel du parti, parfois confisqué. Mais sa popularité était telle que Rakoschi n'osa pas le faire disparaître. Les gens se battait pour l'acheter lorsqu'il était vendu dans les rues.
La pression de la contestation est telle que Rakoschi doit céder sur un point essentiel, celui de la réhabilitation de Rak.
Ça revient à se condamner lui-même.
Effectivement. Et quand on rend public les conditions dans lesquelles l'ancien combattant des Brigades internationales a été jugé et condamné, c'est un tollé général. Il est clair que, désormais, le secrétaire général du Parti communiste devra tôt ou tard rendre son tablier. Et puis, il y a une autre affaire qui a fait grand bruit.
Quoi ?
Un gisement d'uranium aurait été découvert près de la frontière avec la Yougoslavie.
Mais pourquoi utilisez-vous le conditionnel, là ?
Parce que je ne sais pas si ce gisement a réellement existé.
Ah bon ?
En fait, pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il y a eu manipulation.
La part de qui, hein ?
Je crois vous avoir montré avec l'exemple polonais que les services de l'Ouest, particulièrement de la CIA, suivaient avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait en Europe de l'Est. Et je n'exclus pas que cette histoire d'uranium ait été purement et simplement inventée par ces services.
Dans quel but alors ?
Pour les Hongrois, dont le pays est dépourvu de toute richesse énergétique, la nouvelle de la découverte d'un gisement d'uranium est capitale. Mais aussitôt, on murmure que Rákosi aurait conclu un accord secret avec l'URSS, un accord au terme duquel les Soviétiques exploiteraient l'uranium en échange d'une compensation financière dérisoire.
Ah oui, dérisoire, ça fait scandale.
Évidemment. Rákosi est accusé de brader les intérêts de son pays au profit du grand frère soviétique, ce qui attise en outre la haine contre l'URSS.
Si, comme vous l'insinuez, cette affaire a été montée par des services de l'Ouest. Bah, là encore, ça a été plutôt bien joué.
Oui, oui, car ce ne sont plus seulement les intellectuels qui contestent le pouvoir communiste, mais la majeure partie de la population hongroise.
Rákosi est donc condamné.
Oui, il a beau clamer que les intellectuels sont des agents de la bourgeoisie qui veulent restaurer le capitalisme, son discours ne passe plus. Même les militants communistes purs et durs sont ébranlés. Et à Moscou, on commence à se dire qu'il va falloir agir d'urgence.
Et en commençant par démettre Rákosi,
oui.
Pour le remplacer par Nagy.
Ça aurait été la solution la plus sage, car les Hongrois auraient peut-être fait l'économie de l'insurrection de 1956. Mais non. Les Soviétiques choisissent un bureaucrate qui n'est pas moins stalinien que Rákosi, un nommé Erne Gehre, qui était jusque-là le numéro 2 du parti.
Pourquoi cette erreur flagrante,
Nagy fait peur. Moscou a craint qu'il aille trop loin dans la déstalinisation.
Il y avait personne d'autre que ce Gehre.
Il y avait Janos Kadar.
Qui avait été lui aussi victime des purges staliniennes.
Et qui était depuis rentré en grâce, mais Moscou n'en voulait pas.
Pourtant, c'est lui, plus tard, qui sera l'homme des Soviétiques.
Exact. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'envoyé spécial du Kremlin, Anastas Mikoyan, en a jugé autrement. Avec l'accord de Khrouchtchev, naturellement. Mikoyan, qui était, il faut le noter, plutôt considéré comme un modéré au sein du bureau politique. Il va d'ailleurs obliger Gehre à faire un certain nombre de concessions.
Lesquelles, hein ?
Les torsionnaires de la police secrète sont arrêtés.
Ah bon ?
Et un certain nombre de leurs victimes sont réhabilitées ou libérées. L'archevêque Minsanti peut ainsi quitter sa prison et il est placé en résidence surveillée.
C'est tout de même pas la liberté totale, hein ?
Non, parce que le prélat est la bête noire du régime et qu'on lui prête l'intention d'en revenir à la monarchie.
Bon, on lâche quand même un peu de lest, hein ?
Oui, mais ça ne fait guère illusion. La contestation est allée trop loin pour pouvoir reculer. On assiste par exemple à la tenue d'un congrès des écrivains qui ressemble plus à des états généraux révolutionnaires qu'à une réunion professionnelle ou syndicale.
Et vous avez évoqué tout à l'heure les interventions extérieures à propos de la Pologne. Est-ce qu'il en est de même tout au long de la crise hongroise ?
À l'évidence, oui. Je vous ai parlé de cette curieuse histoire d'uranium.
Ouais.
Mais il faut savoir aussi que Radio Free Europe ne cesse d'entretenir ses auditeurs de l'évolution de la situation. Et nous verrons que cette radio, très proche de la CIA, va jouer un rôle essentiel quand l'insurrection éclatera. Et sans déflorer la suite, je peux d'ores et déjà vous dire que le contenu éditorial de Radio Free Europe fait débat.
Fait débat, ça veut dire ?
Ben, il existe deux lignes antagonistes. Certains des journalistes et des dirigeants de cette radio pensent qu'il faut informer les auditeurs d'Europe de l'Est de façon objective, sans en rajouter. C'est la meilleure façon, selon eux, de montrer l'état du système communiste et de laisser les auditeurs se faire une opinion eux-mêmes.
Oui, pour se différencier des radios officielles qui font de la propagande.
Et qui sont aussi particulièrement soporifiques.
Et les autres ?
Ils considèrent que Radio Free Europe doit être une radio de combat, une radio qui est là pour persuader avant d'informer.
C'est-à-dire une radio qui doit prendre parti.
Et qui ne doit jamais refuser de prendre fait et cause pour tous les éléments de la société qui s'opposent au système communiste. Je peux vous le dire tout de suite, c'est cette ligne dure qui a bien sûr la préférence de la CIA et qui sera celle de Radio Free Europe pendant les dramatiques événements de Budapest.
Alors, revenons justement à la chronologie.
Rákosi a été démis à l'été 1956 et envoyé tout de suite en exil, en URSS.
Ah, il est mieux là-bas, hein.
Oui. Dès le début de l'automne, les étudiants et les jeunes du cercle Petefi s'agitent. Ils réclament un nouveau gouvernement dirigé par Nagy, l'octroi de la liberté totale pour l'opinion et la presse. Et surtout, ils exigent le départ des troupes soviétiques qui se trouvent toujours dans le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et en cela, alors, ils se conduisent exactement comme les contestataires de Varsovie.
Oui, il y a pas mal de points communs entre les deux mouvements. Et les Hongrois se sentent encouragés par ce qui s'est passé en Pologne. Les étudiants et les écrivains ont aussi une autre revendication. Ils veulent que László Rock, déjà réhabilité à titre posthume, fasse l'objet d'obsèques officielles. En effet, Rock et ses soi-disant complices ont été ensevelis à l'époque dans la plus grande discrétion.
Mmh. Et les autorités hongroises peuvent-elles accepter ?
Elles ne peuvent pas faire autrement, tant le vent de la contestation souffle fort. Elles acceptent donc du bout des lèvres et essaient de récupérer l'événement en étant présentes. Mais personne ne s'y trompe. Ces obsèques qui sont célébrées au début du mois d'octobre, qui rassemblent en silence des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, sont bel et bien une manifestation d'opposition au régime. Et c'est une première dans une démocratie populaire.
Bien, un affront terrible pour le gouvernement.
Ça, c'est certain, oui, oui. Mais ce n'est qu'un début. L'opposition est maintenant chauffée à blanc. Et à Moscou, l'inquiétude grandit. Les rapports envoyés par l'ambassadeur soviétique, Andropov...
Andropov, celui qui prendra les rênes du KGB avant de succéder à Brejnev.
Lui-même, oui. Et l'un de ses adjoints s'appelait Kryuchkov. Et lui aussi prendra un jour la tête du KGB.
Il ne s'agit pas d'une coïncidence.
Non. Non, Moscou avait placé à Budapest des hommes qui connaissaient très bien les services secrets, étaient à même de surveiller étroitement le personnel politique hongrois. Mais si vous voulez bien, je reviens à ce que je disais. Andropov envoie des rapports de plus en plus alarmistes. Si alarmistes, même que le patron du KGB, Serov, prend la décision de se rendre lui-même sur place.
À Budapest.
Oui, et dans une quasi-clandestinité.
Moscou prend donc les choses très au sérieux. Hein.
Le Kremlin considère que la nomination de Guereux, 3 mois plus tôt, a été un échec. Il convient donc de réagir vite. D'où le déplacement de Serov, qui va orchestrer de bout en bout les manœuvres soviétiques en Hongrie avec l'aide d'Andropov, naturellement. Alors, je voudrais tout de suite démolir un mythe. On a dit, c'est vrai, qu'au cours de cette crise, Kotchev a paru hésitant. Les derniers documents déclassifiés le prouvent.
Les documents soviétiques, hein.
Oui, mais pour un certain nombre de dirigeants conservateurs, dont le général Serov. La décision de réduire par la force les opposants hongrois avait déjà été prise. Et s'ils ont laissé les choses s'envenimer, c'était certainement pour mettre en difficulté Kotchev. L'homme du 20e congrès, celui qui avait osé dénoncer les crimes de Staline.
Et qui était aussi donc responsable de ce qui se passait en Hongrie.
Évidemment. Et ça obligera plus tard le Kremlin à réagir avec la férocité que vous connaissez. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine.
Je laisse la responsabilité de cette thèse à M. X, même s'il est vrai qu'au sommet de l'État soviétique, la lutte était féroce entre les modérés et les staliniens. Mais je voudrais terminer en vous lisant un extrait d'un rapport que Yuri Andropov a envoyé à Moscou en août 1956. À sa lecture, on comprend très bien que l'intervention soviétique semble déjà inéluctable. Je cite quelques lignes de ce rapport. Au cours des semaines précédant la réunion plénière du comité central du PC hongrois, la situation de politique intérieure s'est singulièrement aggravée dans le pays. Les éléments hostiles qui considèrent la Hongrie comme le chaînon le plus faible du camp socialiste se sont activés et attaquent ouvertement la direction du parti. Ils s'appuient dans leur travail de sape sur la couche aisée de la paysannerie et sur les éléments mécontents dans les milieux des ex-sociodémocrates de droite et de l'intelligentsia. Ils exploitent aussi la grande influence exercée sur la population par la propagande occidentale, par l'Église catholique et par divers éléments nationalistes. Les erreurs commises par nos amis dans la politique économique, la violation de la légalité socialiste, l'affaiblissement de la démocratie à l'intérieur du parti, conséquence du culte de la personnalité pratiqué depuis longtemps par le camarade Rakoschi, ont contribué à l'aggravation de la situation et à l'intensification des activités des éléments hostiles. Les éléments hostiles essaient de présenter le départ du camarade Rakoschi, l'annulation des emprunts d'État obligatoires et d'autres mesures d'allègement comme leur propre victoire et la retraite de nos camarades. Pourtant, les camarades hongrois, pour éviter de nouvelles complications, poursuivent encore une politique de concession, ce qui, à notre avis, ne fait qu'encourager l'activité des éléments hostiles et oppositionnels. Dès le début, la révolution hongroise de 1956 était condamnée. C'est en tout cas la conviction de M. X. Le clan stalinien au sommet de l'État soviétique avait décidé d'en finir. Et si au Kremlin, on a semblé hésiter, c'est parce que les conservateurs et les services secrets, largement représentés à Budapest, ont piégé Khrouchtchev. Khrouchtchev, l'homme du 20e congrès, celui qui a dénoncé les crimes de Staline et qui sera ensuite celui de la féroce répression contre les Hongrois. Il a jeté le masque, pensera-t-on dans le monde entier. Et il s'en suivra un véritable séisme dans l'univers communiste. Ce sera en particulier le premier grand divorce entre les intellectuels et les communistes. Mais le piège, si piège il y a eu, n'a-t-il pas été aussi tendu par des occidentaux qui avaient intérêt à noircir le tableau et à faire apparaître Khrouchtchev sous son plus mauvais jour? C'est l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre dans ce nouvel entretien. Rappelons simplement que la Hongrie était depuis un an traversée par un puissant mouvement contestataire, essentiellement dans les milieux intellectuels. Et les opposants au régime communiste ne pouvaient qu'être stimulés par l'agitation qui se produisait en même temps dans la démocratie populaire voisine, la Pologne. Ajoutons enfin que les événements dramatiques de 1956 vont coïncider avec l'intervention militaire franco-britannique en Égypte. Et comme M. X ne croit pas beaucoup au hasard...
Si vous voulez, reprenons le fil des événements. Le 6 octobre, à l'occasion des obsèques de Laszlo Rock, victime des purges staliniennes et récemment réhabilité, plus de 100 000 personnes se rassemblent. Une manifestation inédite dans un pays communiste.
Mais vous m'avez dit que c'était clairement un rassemblement hostile au pouvoir communiste.
Absolument. 15 jours plus tard, ça recommence. Les cercles oppositionnels organisent une nouvelle manifestation. Il s'agit de célébrer la victoire du Polonais Gomułka qui vient de prendre le pouvoir à Varsovie. Enfin, n'y revenons pas, je vous en ai longuement parlé la semaine passée. Mais il est évident qu'en appelant à ce rassemblement, les organisateurs veulent aussi mettre en avant leurs propres revendications.
Qui sont alors, rappelons-le.
La tenue d'élections libres, le retour au pouvoir de Imre Nagy, limogé un an plus tôt, et le retrait des troupes soviétiques de Hongrie. Et très vite, il apparaît que cette manifestation va être un grand succès. Entre 250 et 300 000 personnes se réunissent. C'est énorme, à l'échelle d'un petit pays de 10 millions d'habitants.
Alors, comment réagit le pouvoir?
D'une façon absurde, enfin apparemment absurde.
Que signifie ce apparemment là?
Écoutez, n'allons pas trop vite.
Il y a longtemps.
Ouais, d'accord. Enfin, en début de soirée, alors que la manifestation a commencé tôt dans l'après-midi, l'homme fort du pays, le secrétaire général du parti, Erne Göreux, intervient à la radio. Et au lieu du discours conciliateur qu'on pouvait attendre, il prend violemment à partie les manifestants qui sont accusés d'être des fascistes et des contre-révolutionnaires.
Oui, allons-y. Ouais.
En même temps, il chante l'éloge du grand pays frère, l'URSS.
Oui, ça ressemble à une provocation, non?
Exactement, oui. Le résultat, c'est que les manifestants, toujours aussi nombreux, se rassemblent devant l'immeuble de la radiodiffusion et devant le Parlement. Et soudain, des coups de feu claquent.
Alors, qui tire?
Des agents de la police politique et peut-être aussi des éléments provocateurs. Plusieurs personnes sont tuées. Ça déchaîne la colère de la foule. Les manifestants assiègent la radio tandis que d'autres déboulonnent une gigantesque statue de Staline. Et maintenant, on se bat dans les rues de Budapest, car des policiers municipaux et même des militaires ont donné leurs armes aux insurgés. La révolution hongroise a commencé.
Alors, avant d'aller plus loin, revenons sur ce que vous avez insinué là, en affirmant que le pouvoir réagit de façon apparemment absurde.
Je m'explique, si vous voulez bien. Erne Göreux est complètement sous contrôle.
Sous contrôle soviétique, vous voulez dire?
Bien sûr. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Serov, le patron du KGB, a fait le voyage de Budapest. Il y a rejoint Yuri Andropov, l'ambassadeur soviétique, un homme d'autant plus redoutable qu'il ne ressemble en rien à un bureaucrate. Guéreux, en prononçant à la radio cette allocution provocatrice, a agi sur ordre.
Ouais, mais alors pourquoi?
Pour provoquer le désordre, c'est certain. Ce que veulent les soviétiques, c'est mettre le feu aux poudres, enfin, plus tard, de légitimer leur intervention armée. Mais n'oublions pas que Serov est une sorte de spécialiste de la manière forte. C'est lui qui a présidé aux déportations des populations caucasiennes. Lui aussi qui a dirigé la répression dans les États baltes.
Ouais, c'est plutôt un conservateur, quoi.
Sans nul doute, un nostalgique de la politique stalinienne.
Mais attendez, là, pour les soviétiques, était-il possible d'agir autrement?
Oui, si Göreux avait par exemple laissé entendre qu'il était prêt à écouter les manifestants, les événements n'auraient pas dégénéré. Il aurait suffi d'annoncer que Imre Nagy allait revenir au pouvoir et le calme serait revenu comme ça s'était passé à Varsovie.
Ouais. Alors la suite, là.
Dans la nuit, les dirigeants communistes se réunissent en urgence. Serov y participe, naturellement. C'est lui le véritable patron.
Ouais, soviétique, hein. Ouais. Et alors, que décide-t-on, là?
La politique de la carotte et du bâton. D'un côté, on nomme Imre Nagy au poste de Premier ministre, et de l'autre, on fait appel à l'armée soviétique.
Et là encore, c'est très curieux,
Je ne vous le fais pas dire.
Ouais. Alors, expliquez un peu, quand
même. Je pense qu'on a voulu faire porter la responsabilité de la répression sur Nagy.
Donc le couper de ses partisans.
Et dans un premier temps, c'est ce qui va se passer. Alors que les chars soviétiques ont commencé à intervenir et que de violents combats ont lieu un peu partout dans le pays, Nagy prononce un discours radiodiffusé très décevant. Mais déjà la veille, il avait fait un vrai faux pas en s'adressant aux manifestants. Il est clair qu'il n'avait pas encore pris la dimension de la protestation.
C'est-à-dire un discours à la radio décevant pour ses partisans.
Oui,
c'est ça,
à la tête d'un gouvernement à peine différent du précédent, il annonce qu'il faut poursuivre la répression contre les insurgés. Seul acte positif, il a refusé de signer un appel écrit à l'armée soviétique.
Un appel qui aurait pu légitimer l'intervention armée de Moscou.
Certainement.
Vous avez parlé de violents combats.
Dès la première journée de l'insurrection, on compte déjà près de 350 morts. Et on voit ce qui est très important, des policiers et des militaires hongrois prendre le parti des rebelles. Plus grave encore, pour le pouvoir communiste, de nombreux ouvriers combattent contre les envahisseurs et la police politique.
Ouais, alors même, j'imagine que les communistes espéraient couper les intellectuels de la classe ouvrière.
Ouais. Voilà. Et ils pensaient que la seule intervention des chars allait réduire rapidement l'insurrection. Mais les soldats soviétiques ne sont pas préparés à mater ce genre de mouvement populaire. Et d'autre part, ni les soviétiques ni les communistes au pouvoir n'avaient prévu que la révolution gagnerait tout le pays.
Erreur d'analyse.
Incontestablement. Le parti communiste, qui était fort d'un million d'adhérents, s'est effondré sur lui-même. Il n'existe pratiquement plus. Alors les soviétiques comprennent qu'il va leur falloir reculer, au moins provisoirement, en chassant d'abord le secrétaire général du parti qui personnalise tous les excès du régime.
Qui le remplace, là ?
Janosch Kadar, un homme qui, après avoir été un acteur des purges staliniennes de la fin des années 40, a fini lui-même par en devenir une victime. Toutefois, pour les insurgés, ce n'est pas assez. On a alors l'impression que le Kremlin est déboussolé. Khrouchtchev oscille entre le désir de réprimer et celui de composer. Et cette hésitation est symbolisée par la composition de la mission qu'il envoie à Budapest. Un modéré, Mikoyan, est accompagné d'un dur, Souslov.
Et deux hommes qui ont donc des approches radicalement différentes.
Oui, mais Serov continue à jouer sa partition, qui est celle des conservateurs. Il ordonne par exemple à certains agents du KGB implantés à l'ouest de rejoindre la Hongrie.
Non, mais quel but là ?
Organiser des provocations.
On a toujours la même chose au fond.
On a noté par exemple plusieurs cas de lynchage de membres de la police politique qui se trouvaient derrière. Des insurgés ou des agents provocateurs ? Mystère. Autre fait curieux, fin octobre, des forces de sécurité, pourtant ralliées aux insurgés, tireront la mitrailleuse dans une foule pacifique réunie devant le Parlement. On relevera 200 morts.
200 morts ?
Ouais. Bon, la situation demeure très confuse, car en même temps, on observe que les revendications de la Russie sont de plus en plus radicales.
Anticommunistes, oui.
Et franchement, antisoviétiques. Et pour être tout à fait honnête, il faut bien reconnaître que ce mouvement insurrectionnel est très hétéroclite. Si au départ, les intellectuels et les cercles petofi créés au sein des jeunesses communistes voulaient libéraliser le système sans rompre avec le socialisme, ils se mêlent maintenant à ces révolutionnaires des gens de droite et même d'extrême droite.
Il y a des nostalgiques du régime fasciste d'antan ?
Certainement. Ça permettra d'ailleurs aux communistes, et je pense spécialement aux communistes français, d'affirmer plus tard que tous ces révolutionnaires hongrois n'étaient que des réactionnaires ou même des fascistes.
Ouais, donc il fallait les réduire par la force.
C'est ça.
Ouais. Et alors, comment en Hongrie la situation évolue-t-elle ?
C'est très étrange. Nodge, je vous l'ai dit, est d'abord passé à côté de son sujet.
Oui, il n'a pas compris.
Je le pense. Ouais. Mais il va très vite évoluer. Et ce dirigeant qui prenait autrefois la construction d'un communisme à visage humain va être peu à peu amené à rompre avec le système.
Sous la pression de la rue ?
Forcément. Le 26 octobre, soit trois jours seulement après la grande manifestation du 23...
Et alors qu'on se bat un peu partout.
Oui, donc le 26, les insurgés décrètent la grève générale.
Une grève qui va être bien suivie ?
Mais dans tout le pays, oui. Le lendemain, Nodge remanie son gouvernement et y introduit des têtes nouvelles dont la plupart étaient des chefs de parti interdits.
Et c'est presque la reconnaissance du multipartisme, ça. Hein ?
Effectivement. Et à partir de ce moment, Nodge, qu'il le veuille ou non, va être entraîné dans une spirale infernale.
Revenons un instant sur le faux pas de Nodge lors de la manifestation du 23 octobre à Budapest. Voici comment Jacques Semelin le rapporte dans son livre paru chez Belfond, « La liberté au bout des ongles ». À Budapest, la foule ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit des dirigeants staliniens qu'elle exècre. Si elle se rend à la place Kossuth vers 17h, c'est pour entendre celui en qui elle met tous ses espoirs, Imre Nodge. Ce dernier avait fait une première ouverture en 1953, puis avait été limogé. Il venait d'être réintégré au sein du parti. Réticent, Imre Nodge paraît devant la foule vers 19h45. Commençant son discours par la formule rituelle « Mes camarades », il est aussitôt hué par ceux-là même qui l'ont attendu depuis si longtemps. Son allocution déçoit. Elle ne correspond pas aux attentes de la foule et ne lui donne aucune perspective concrète. Quand Nodge invite l'assistance à rentrer paisiblement chez elle, la déception s'aggrave. Toute la place gronde, murmure et aucun applaudissement n'accueille la péroraison de Nodge. Un instant, embarrassé, celui-ci invite enfin l'assistance à entonner l'hymne national. Cette initiative permet in extremis au leader hongrois de communier un instant avec la population réunie. Mais elle ne comble certainement pas la frustration de la foule née de ce profond hiatus entre elle et celui qui est pourtant, en principe, le plus proche de ses attentes. Nodge va donc de plus en plus loin.
Oui, le 28 octobre, après avoir appelé au cessez-le-feu.
Et il a entendu, là, ce...
Pas très bien, non. Donc, après avoir lancé cet appel, il franchit un pas supplémentaire en reconnaissant la légitimité de la lutte contre la police politique et les unités soviétiques. Et il prend fermement position en faveur du multipartisme.
C'est quand même assez énorme, parce que, bon, en principe, c'est un dirigeant communiste.
En principe, oui. Ouais. Mais de moins en moins.
Et les émissaires de Khrouchtchev, Mikoyan et Souslov, sont-ils toujours sur place?
Ils sont encore à Budapest. Les choses étonnantes, ils semblent approuver les propos de Nodge.
Même Souslov, qui est le plus dur du duo. Hein.
Oui.
Alors, bon, c'est quoi? De la duplicité?
Bien entendu. Pardonnez-moi de me répéter, mais au Kremlin, malgré les gesticulations de Khrouchtchev, qui semble toujours hésiter, on a déjà pris la décision de lancer l'épreuve de force. Mais il faut endormir les Hongrois, si vous me passez cette expression.
C'est-à-dire, quoi, vaincre leur méfiance?
Oui, les deux émissaires soviétiques persuadent Nodge que le Kremlin veut sincèrement aboutir à une solution politique de la crise hongroise.
Comme en Pologne?
Je vous ai raconté comment les chars soviétiques avaient servi d'épouvantail et permis d'asseoir le pouvoir de Gomulka. En Hongrie, le problème est un petit peu différent. Moscou se trouve face à une véritable insurrection. Et si les soviétiques cèdent quoi que ce soit... Il risque de se trouver face à d'autres difficultés dans tous les pays du bloc de l'Est.
Ouais, la contagion.
Oui, les Hongrois sont allés trop loin. Alors, toujours pour les endormir, les chars rebroussent chemin et abandonnent la ville de Budapest.
Les insurgés peuvent donc penser qu'ils ont gagné?
Tout à fait. Et Imre Nodge, de plus en plus confiant, leur emboîte le pas. Il procède à un nouveau remaniement gouvernemental et ne garde auprès de lui qu'une poignée de ministres communistes. En outre, pour couper le cordon ombilical avec le parti... Il quitte symboliquement son siège et s'installe au Parlement. De la même façon, il annonce officiellement qu'il dissout la police politique et met fin au système du parti unique.
Oui, ça signifie clairement sortir là de l'orbite de Moscou. Hein.
Et le Kremlin ne bronche toujours pas. Mieux, Nodge, toujours poussé par les insurgés, affirme sa volonté de faire de la Hongrie un pays neutre. Il a donc l'intention de dénoncer le pacte de Varsovie qui unit militairement les pays de l'Est entre eux, sous la tutelle de Moscou, bien sûr.
Oui, ça, c'est quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Oui, même si je vous ai dit que, de toutes les façons, les dirigeants les plus conservateurs du Présidium avaient décidé qu'il fallait intervenir militairement tôt ou tard, quitte à provoquer une sorte de putsch au sommet du parti. Mmh. Mais c'est vrai que, désormais, Khrouchtchev lui-même ne peut plus reculer. Parce que c'est la désintégration même du bloc de l'Est qui est maintenant en jeu.
Mais comment... Les insurgés hongrois et Nodge, lui-même, n'ont-ils pas compris qu'ils étaient allés trop loin?
C'est effectivement une question fondamentale.
Mm-hmm. Est-ce que des provocateurs, enfin encore eux, auraient pu pousser Nodge dans cette voie extrême?
Ça n'est pas inimaginable. Mais si vous le voulez, j'essaierai d'y répondre un petit peu plus tard.
Ah, encore des mystères.
Mais non. Toutefois, je vous donne une première piste. Pour la première fois depuis 1948, les Hongrois se sentent libres. Et ce sentiment de liberté engendre une certaine euphorie.
Ouais, une euphorie trompeuse.
Oui, je le pense, et encouragée à dessein par certains. Mais encore un petit peu de patience. Voyons d'abord les faits, uniquement les faits. Les Soviétiques, à partir du moment où les Hongrois ont manifesté leur intention de sortir du pacte de Varsovie, n'ont qu'une idée en tête, je vous l'ai dit, c'est-à-dire endormir la méfiance des insurgés et du gouvernement de Nodge. Et alors même que les chars soviétiques auront pénétré en Hongrie, dans la nuit du 31 octobre, la manœuvre d'intoxication se poursuivra.
Mais comment? Parce que Nodge doit être informé de l'invasion de son pays par ses chars.
Certes, il est informé en toute hâte et il appelle aussitôt l'ambassade soviétique. Andropov lui affirme avec le plus grand sérieux qu'il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'organiser la sécurité des troupes de l'armée rouge qui quittent le territoire hongrois.
C'est un peu gros, ça.
Oui, mais apparemment ça marche. Nodge est provisoirement rasséréné, et même s'il menace d'en appeler à l'ONU. Il l'est d'autant plus que, dans le même temps, la Pravda a publié un article annonçant que le gouvernement soviétique était prêt à engager des négociations avec son homologue hongrois afin d'examiner la question de la présence des troupes de l'armée rouge sur le territoire hongrois.
Et ça fait aussi partie du plan soviétique pour tromper les Hongrois?
C'est évident. Et ça continue dans les 2 jours qui suivent. Le Kremlin propose à Nodge d'envoyer une délégation à Varsovie pour renégocier le pacte du même nom et examiner les modalités du départ des troupes soviétiques.
Mmh. Et Nodge marche toujours, enfin, si je puis dire.
Oui, pourtant un événement aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Le 1er novembre, le nouveau patron du Parti communiste, Janos Kadar, déclare à la radio que grâce au soulèvement, le peuple hongrois a conquis la liberté et l'indépendance. Puis il disparaît mystérieusement.
Mais bon. Où va-t-il?
On ne l'apprendra que quelques jours plus tard, quand il réapparaîtra dans les fourgons de l'armée soviétique. Kadar s'est rendu à Moscou.
Alors, de son plein gré?
On ne le sait pas. Peut-être a-t-il été kidnappé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il reviendra en Hongrie, il sera devenu, avec l'onction du Kremlin, le nouvel homme fort du pays.
Il a trahi.
Ça en a tout l'air. Forcé ou pas, Kadar a accepté d'être le zélé serviteur du Kremlin, en parfaite contradiction avec tout ce qu'il avait déclaré précédemment. Mais revenons aux événements. En ce tout début du mois de novembre, les Hongrois, abusés par les Soviétiques, peuvent croire qu'ils ont triomphé.
L'euphorie toujours. Hein.
Oui, l'armée s'est mise spontanément aux ordres des nouvelles autorités et un peu partout dans le pays se sont créés spontanément des conseils ouvriers qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Seule ombre au tableau, l'attitude du cardinal Mindszenty. À peine libéré, ce prélat, issu de l'aristocratie, prend aussitôt position contre le gouvernement de Nagy en l'accusant d'être l'héritier du régime communiste.
C'est pas tout à fait faux.
Sans doute. Mais les nouveaux dirigeants ont clairement exprimé qu'ils voulaient en finir avec l'ancien système, sans pour autant choisir le capitalisme.
Une sorte de troisième voie.
En quelque sorte. Mais ils n'auront guère de temps pour l'expérimenter. Le 3 novembre, les généraux hongrois sont invités à se rendre au QG de l'armée soviétique dans la banlieue de Budapest. C'est un piège. Ils sont aussitôt arrêtés dans le plus grand secret par les hommes du KGB. Simultanément, les chars soviétiques se rapprochent de Budapest.
Mais c'est la fin, là.
Mais pas la fin de la duplicité. Dans la nuit qui suit, le premier ministre Imre Nagy s'entretient avec l'ambassadeur Yuri Andropov. Il reçoit alors un coup de téléphone d'un général qui l'informe de l'avancée des chars de l'armée rouge. Nagy interroge Andropov, qu'en est-il? Le futur numéro un soviétique nie avec le plus grand sang-froid. Le Kremlin n'a pas donné l'ordre d'envahir la Hongrie.
D'accord, mais enfin, Nagy peut-il encore avoir des doutes, des illusions?
Il ne comprendra qu'à l'aube de ce 4 novembre. Et à la radio, il s'adressera une dernière fois à son peuple en annonçant l'attaque soviétique et il lancera un appel à la communauté internationale. Un discours pathétique qui bouleversera le monde entier. Mais c'est bien tout, car Moscou n'est pas intervenu au hasard. Les soviétiques ont choisi d'attaquer au moment même où les premiers paras français et britanniques sautaient sur l'Égypte.
Ah ouais. Donc ils pouvaient agir en toute impunité.
Oui, car à leur tour, ils auraient beau jeu de dénoncer l'agression colonialiste de deux pays membres de l'OTAN. Enfin, l'important n'est pas là. Ils étaient d'autant plus sûrs de leur coup qu'ils savaient que Washington ne réagirait pas.
Revenons sur une des caractéristiques de la révolution hongroise. La création de ces conseils ouvriers dont M. X a parlé. À ce propos, Miklós Molnár, auteur d'une histoire de la Hongrie, publiée par Attier, écrit ceci, je le cite. L'un des caractères originaux du changement est la formation spontanée d'organes d'autogouvernement. Appelés comités nationaux, conseils révolutionnaires ou conseils ouvriers, ils assurent tantôt les tâches administratives, surtout dans les localités, tantôt la direction de l'institution ou de l'entreprise. Il serait toutefois faux de considérer ces derniers comme des organes d'autogestion ouvrière et partant les événements de Budapest comme une révolution des conseils. Plusieurs ouvrages présentent une telle interprétation romantique révolutionnaire de gauche, démentie pourtant par la multiplicité des formes d'organisation et des programmes. Le mouvement des conseils ouvriers imprime donc sans aucun doute un caractère spécifique aux événements, celui d'une révolution spontanée, pluraliste, multiforme, sans direction centrale ni tendance dominante, si ce n'est la volonté commune d'indépendance nationale et de liberté civile. Le dénominateur commun, à part le sentiment national, est l'élan vers une société civile multiple et policée. Personne, certes, n'a même entendu parler de société civile, mais du village perdu à la grande usine en passant par les associations d'écrivains, d'artistes ou de croyants, chacun a saisi une parcelle du pouvoir appartenant aux citoyens.
Je reviens sur ce que vous avez dit. À Moscou, on savait que les Américains n'interviendraient pas.
C'est parfaitement exact. Je vais y revenir. Mais ça ne veut pas dire que la Maison-Blanche ne s'intéresse pas à la Hongrie. Bien au contraire. Les spécialistes de la CIA suivent depuis longtemps et très attentivement la situation dans les pays de l'Europe de l'Est.
Mais quel objectif alors?
Exploiter les faiblesses de ces pays pour éventuellement les déstabiliser. C'est la guerre froide, ne l'oubliez pas. Et je vous ai déjà parlé des parachutages de tracts, par exemple. Par conséquent, les Américains, grâce à leurs agents infiltrés au-delà du rideau de fer, observent les progrès de la dissidence. Et ils se posent la question, est-ce que cette contestation peut déboucher sur une vraie résistance? Une résistance qui pourrait être appuyée par une action directe des États-Unis.
Mais la réponse?
Elle est négative. Pour des raisons à la fois politiques et géographiques, la Pologne, la Tchécoslovaquie et même la Roumanie apparaissent, pour reprendre le jargon des hommes du renseignement, comme des terrains plus prometteurs.
Et pourtant, c'est en Hongrie que que la contestation ira le plus loin, enfin jusqu'à l'insurrection. Hein.
Vous avez entièrement raison, mais le président américain, Ike Eisenhower, craint qu'une intervention, quelle qu'elle soit, ne débouche sur une guerre totale avec l'URSS. Et paradoxalement, c'est avec une grande inquiétude qu'il va observer les premiers soubresauts en Hongrie.
Pourquoi ? Parce qu'il a peur que les Américains ne soient accusés d'entretenir la contestation ?
Oui, et lorsque la situation empire à la fin du mois d'octobre 1956, il va même prendre une décision étonnante. Son ambassadeur à Moscou, Charles Bolhen, est chargé d'informer les maîtres du Kremlin que les États-Unis n'en profiteraient pas pour essayer de détacher la Hongrie du bloc militaire du pacte de Varsovie.
Bah ça a au moins le mérite d'être clair, hein. Eisenhower ne veut pas remettre en cause le partage de l'Europe tel qu'il a été décidé à Yalta.
En effet, mais ce n'est pas si simple que cela. Parce qu'il existe des gens aux États-Unis qui ont choisi d'exploiter la crise hongroise.
Et des gens qui
Pas essentiellement à la CIA.
Mais la CIA, en principe, est contrôlée par la Maison-Blanche.
Hein. En principe, oui. Enfin, parfois, on peut fermer les yeux, non ? Enfin, mon bras droit ne sait pas ce que fait mon bras gauche. C'est très pratique.
Oui, d'accord. Mais comment exploiter la crise hongroise, là ?
Grâce essentiellement à la radio. Cette radio Free Europe, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai dit qu'il existait dans cette radio deux lignes. Une ligne purement journalistique et une autre qui en tenait pour la propagande et même la désinformation. Eh bien, c'est cette dernière qui l'emporte.
Donc la ligne la plus dure.
Oui, il faut en outre préciser qu'à Radio Free Europe, les informations sont assurées par des émigrés.
Oui, alors ce sont les journalistes plutôt anticommunistes.
Hein. Très anticommunistes. Et certains d'entre eux ont été les élateurs du régime fasciste du dictateur Horthy.
Oui, mais ils sont sous le contrôle de la CIA, hein, la Radio Free Europe,
c'est la CIA qui finance cette radio. Alors, de quoi s'agit-il ? Radio Free Europe, dans ses émissions en langue magyare, a d'abord participé à créer ce climat d'euphorie que j'ai évoqué tout à l'heure.
C'est-à-dire en exaltant le patriotisme des Hongrois
Certainement, et donc en les encourageant à se lever contre le régime communiste et à le combattre. Mais ce n'est pas tout. Radio Free Europe pousse les Hongrois à se montrer toujours plus intransigeants. Alors qu'on aurait pu penser que les journalistes de ces stations auraient applaudi aux initiatives d'Imre Nagy. C'est exactement le contraire qui se produit.
Ça y est.
Nagy est accusé de ne prendre que des demi-mesures.
Non, juste trop mou, quoi.
Oui, oui. Et en tant que dirigeant communiste, même s'il a pris ses distances avec l'URSS, il ne peut pas représenter le peuple hongrois. C'est très grave. Parce que je vous l'ai expliqué, Nagy, après quelques atermoiements, s'est rangé clairement du côté des insurgés et a pris à son compte la plupart de leurs revendications.
Donc la propagande de Radio Free Europe ne peut que l'affaiblir, ou pire, même le mettre en difficulté.
C'est évident. Mais il y a plus grave. Lorsque les milliers de chars soviétiques déferlent sur la Hongrie, Radio Free Europe appelle à la résistance.
Bah, ça ne me paraît pas déraisonnable, non ?
Attendez, j'ai pas fini. Les journalistes de la station américaine laissent entendre clairement que les insurgés vont recevoir de l'aide.
Une aide militaire ?
Oui, en gros, on dit aux Hongrois, résistez, battez-vous, tenez quelques jours, et bientôt les Occidentaux vont intervenir.
Ce qui est parfaitement fou, d'après ce que vous m'avez dit. Hein.
Et la CIA est bien placée pour le savoir. Les États-Unis n'ont nullement l'intention de venir au secours des Hongrois. Sinon, en émettant des protestations auprès des instances internationales. Quant aux autres pays occidentaux qui auraient pu agir, essentiellement les Français et les Britanniques, ils ont déjà fort à faire avec leur aventure égyptienne pour penser à envoyer des troupes en Hongrie.
Mais même sans l'expédition égyptienne, l'aurait-il pu d'ailleurs ?
Je ne le pense pas. Il pensait sans doute, comme Eisenhower, que la Hongrie était aussi inaccessible que le Tibet.
Ah, mais est-ce que Eisenhower a vraiment dit ça ?
Oui, devant des dirigeants de la CIA. J'ajoute que même si le gouvernement français avait été en mesure d'intervenir militairement, il ne l'aurait pas fait.
Pourquoi ?
Bah, parce que le gouvernement socialiste de M. Guy Mollet estimait qu'en encourageant l'insurrection hongroise et donc en provoquant une rupture avec Moscou, on aurait renforcé en URSS le courant stalinien.
C'est pas un peu hypocrite
Je vous laisse seul juge.
Oui, bon, d'accord. Alors, revenons à ce que vous disiez, là. En faisant croire aux révoltés hongrois l'arrivée prochaine d'une aide matérielle, militaire même, Radio Free Europe les a non seulement trompés, mais les a envoyés à la mort.
Ou les a obligés à choisir le chemin de l'exil, ce que feront plus de 200 000 Hongrois.
Oh, c'est assez criminel, quand même.
Je suis assez d'accord avec vous, mais c'est la vérité. Il faut d'ailleurs observer que, très curieusement, la plupart des archives de Radio Free Europe ont été détruites.
Parce que l'épisode n'était pas très glorieux.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, maintenant, comment décryptez-vous tout ça ?
Ça me paraît très clair. Il fallait démolir l'image bonhomme et libérale de Khrouchtchev. Il fallait faire la démonstration que le champion de la déstalinisation n'était qu'un dictateur et un boucher. Plusieurs milliers de Hongrois l'ont payé de leur vie. Telle est la sinistre vérité. Mais du strict point de vue de l'efficacité, les Américains ont gagné. Non seulement Khrouchtchev a été discrédité, mais l'écrasement de la révolution de Budapest a créé un véritable schisme chez les communistes.
Ouais, c'est vrai qu'en 1956, beaucoup de communistes vont rendre leur carte du parti.
Oui, et chez nous, beaucoup d'intellectuels étaient membres du parti ou à tout le moins compagnons de route. Ce sera désastreux. Mais il faut dire aussi que la position du Parti communiste français a été sans nuance. Les insurgés hongrois ne pouvaient être que des fascistes.
Ouais, je me souviens. Avant de nous quitter, un mot quand même sur ce qui s'est passé après l'entrée des chars dans Budapest et le reste du pays. Hein.
L'armée rouge intervient avec 200 000 hommes et plus de 4 000 chars.
C'est énorme. Ouais.
Et les insurgés, même épaulés par l'armée hongroise, ne peuvent pas résister longtemps. En 8 jours, c'est réglé. Il y a 2 000 ou 3 000 morts et les quelques foyers insurrectionnels qui subsisteront seront rapidement écrasés.
Et Nagy.
Lorsque les soviétiques se rendent maîtres de Budapest, ils se réfugient avec quelques compagnons à l'ambassade yougoslave, ce qui embarrasse Tito.
Pourquoi ? Quelle raison, là ?
Il vient à peine de se réconcilier avec le Kremlin. Et il n'a pas très envie de subir à nouveau les foudres des dirigeants moscovites. Et heureusement pour lui, Kadar, le nouveau maître de la Hongrie, déclare publiquement que, malgré ses crimes, aucun procès ne sera intenté à Nagy. Confiant, ce dernier et ses compagnons quittent donc l'ambassade de Yougoslavie. Mais ils sont à peine sortis qu'ils sont arrêtés par le KGB.
Ouais, une sorte de piège, quoi. Mmh. Que leur advient-il ?
Ils sont immédiatement emmenés en Roumanie, où ils sont emprisonnés, sous bonne garde. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils doivent être interrogés, peut-être même torturés. En tout cas, en 1958, ils sont reconduits en Hongrie et jugés. Nagy et quatre de ses amis, reconnus coupables, sont condamnés à mort et bientôt exécutés.
Au fond, comme sous Staline ?
Oui, oui. Enfin, il faut ajouter que la répression ne se limitera pas à l'exécution de Nagy. Des intellectuels, des savants seront jugés, des dizaines seront exécutés et des milliers condamnés à de longues peines de prison. Et il faudra attendre 1963 pour qu'ils soient enfin amnistiés. Mais le plus étrange, c'est que Janosch Kadar sera le dirigeant communiste d'Europe de l'Est qui conduira aussi son pays dans la voie du modernisme et d'une relative libéralisation.
Radio Free Europe a-t-elle joué le rôle néfaste que lui prête M. X ? Voici l'avis d'un des meilleurs connaisseurs, François Feiteux. Tous les journalistes et observateurs étrangers ayant eu des contacts avec les insurgés étaient frappés par les espoirs que ces derniers avaient placés dans une aide morale, sinon matérielle, de l'Occident. Un grand nombre de réfugiés déclareront plus tard que les émissions de Radio Free Europe, à partir de Munich, avaient fait naître de fortes illusions à cet égard. Il est certain que les émissions de cette radio étaient très suivies en Hongrie et exerçaient une certaine influence sur les esprits qui considéraient ce poste comme l'interprète autorisé de l'opinion américaine. Or, les émissions en hongrois étaient à cette époque dirigées par des émigrés de droite qui ne comprenaient pas grand-chose à la situation réelle de la Hongrie et firent preuve d'une irresponsabilité criminelle.